Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne pour l'affaire de ce soir. Direction Las Vegas dans l'état du Nevada. Connue sous le surnom Sin City, ville du péché, Las Vegas est la ville de tous les excès. Jeux d'argent, sexe, drogue et rock'n'roll. Située en plein cœur du désert du Nevada, cette ville est célèbre pour sa vie nocturne sans fin. En 2023, Vegas attire plus de 42 millions de visiteurs, tous fascinés par les casinos, les spectacles et les hôtels de luxe. Derrière les strass, paillettes et jetons, on trouve aussi à Vegas de la criminalité, toxicomanie et prostitution. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Techniquement, la prostitution est illégale dans la ville, mais elle prospère dans les comtés voisins où elle est réglementée. Le Nevada est le seul état américain où certaines formes de prostitution sont légales. Selon l'Université du Nevada à Las Vegas, les services d'escorte et de prostitution rapportent des centaines de millions de dollars chaque année. Les travailleuses, travailleurs du sexe, stripteaseurs, stripteaseuses sont souvent présents dans des soirées privées, dans les boîtes de nuit. La drogue aussi y est omniprésente. Il n'est pas rare de voir des clients, des prostituées et même des mannequins consommer cocaïne ou ecstasy, pour ne citer que ces substances-là. D'ailleurs, Las Vegas est aussi le paradis des mannequins. De nombreux casinos et boîtes de nuit les embauchent pour des promotions et des spectacles. Les photographes se bousculent pour immortaliser ces modèles pendant des conventions célèbres comme le Consumers Electronics Show. Et avec des millions de mariages célébrés chaque année dans la ville, les mannequins trouvent des opportunités en or grâce à des défilés de robes de mariée ou des séances photos autour du thème du mariage. L'avenir des mannequins serait-il à Las Vegas? Pour certaines, il semblerait que oui, et ce soir, on va parler de l'une d'entre elles, Esmeralda González. Esmeralda González naît le 26 mai 1995 à Michoacán, au Mexique. C'est un état situé dans le sud-ouest du pays, sur la côte pacifique. Comme beaucoup d'autres familles cherchant une vie meilleure, les González émigrent aux États-Unis et ils s'installent à Las Vegas. Les parents d'Esmeralda sont des travailleurs, ils s'intègrent assez facilement dans leur nouveau pays de résidence. La petite Esmeralda, c'est une enfant très douce, qui est très proche de son frère Juan. Elle adore les animaux, surtout les chiens. La petite fille se transforme en jeune femme et nourrit de grandes ambitions. Elle poursuit des études à l'Université du Nevada, où elle obtient une licence en communication. D'ailleurs, son frère Juan y poursuit aussi des études supérieures. Il obtient un diplôme en administration des affaires au sein de la même université que sa sœur. Ce qui est sûr, c'est que chez les González, on accorde une très grande importance aux études. Brillante et intelligente, le profil de la jeune femme sur les réseaux sociaux indique qu'elle est également investisseuse en immobilier. Elle vit dans le quartier sud-ouest de Las Vegas, près de Pebble et Durango, et d'après les statistiques, c'est pas un coin particulièrement dangereux, c'est même plutôt sûr. Esmeralda est également impliquée dans l'humanitaire et elle développe un intérêt pour les sciences sociales et l'anthropologie. En plus de ses activités académiques et professionnelles, elle se lance dans le mannequinat. Elle pose pour des séances photos rémunérées. Esmeralda, c'est une femme pétillante au sourire contagieux. Sur son compte Instagram, elle partage des photos d'elle en tant que modèle, souvent dans des petites tenues. Elle finit par réunir plus de 300 000 abonnés. C'est une vraie petite célébrité. En mai 2018, elle participe au carnaval Electric Daisy en tant que modèle. Ce carnaval, c'est un grand festival de musique électro, l'un des plus grands au monde au passage. C'est un événement qui se déroule à Las Vegas, même si certaines éditions s'exportent en Asie. Pendant le festival de 2018, Esmeralda partage plein de photos de sa participation. Elle a l'air très heureuse, on la voit dans les costumes et les tenues qu'elle porte pour l'occasion, des styles super décalés qui sortent du lot un peu comme elle. Comme je l'ai mentionné en début de vidéo, Las Vegas est connue pour son industrie du divertissement pour adultes, et bien qu'il n'y ait pas de preuves directes qu'Esmeralda travaille comme prostituée, elle évolue dans un milieu très sexualisé en tant que mannequin et potentiellement dans des activités liées aux services d'escorte. J'en profite pour affirmer ici quelque chose de très important, il n'y a aucune preuve concrète qu'Esmeralda ait un jour endossé le rôle d'escorte, ce ne sont que des suppositions. Ce qu'on sait à 100%, c'est qu'elle est mannequin, une petite star sur Instagram et qu'elle est amenée à fréquenter le milieu de la nuit, ce qui ne surprend pas puisqu'elle habite à Las Vegas. Quand on voit à quel point la jeune femme réussit tout ce qu'elle entreprend, on n'arrive pas à imaginer qu'en réalité, Esmeralda souffre de deux troubles mentaux sévères, la schizophrénie et la bipolarité, ce qui la rend particulièrement vulnérable. La schizophrénie, c'est un trouble mental sévère qui modifie la façon de penser, de ressentir les choses et de se comporter avec des symptômes comme des hallucinations, des difficultés à organiser ses pensées, entre autres. La bipolarité, elle, se caractérise par des changements d'humeur extrêmes, alternant entre des phases dites maniaques, hypomaniaques et dépressives. Pour traiter ces troubles mentaux et calmer les symptômes, Esmeralda prend des médicaments. Mais au printemps de l'année 2019, Esmeralda fait quelque chose de très dangereux. Elle arrête son traitement de façon brutale. Pourquoi ? On ne connaîtra jamais vraiment la raison. Quand une personne atteinte de ces troubles arrête son traitement du jour au lendemain, on constate bien sûr un retour des symptômes. Le malade peut avoir des hallucinations auditives, visuelles, entrer dans des délires étranges, sombrer dans la paranoïa, etc. C'est une situation qui peut être extrêmement grave selon les cas et il ne faut pas prendre les traitements médicaux pour les maladies mentales à la légère. Nous sommes le soir du 31 mai 2019, il est environ 18h quand Esmeralda passe la soirée dans son appartement. D'habitude, la jeune femme de 24 ans adore discuter avec ses amis et sa famille sur les réseaux sociaux, mais ce soir-là, elle est silencieuse, elle ne dit à personne ce qu'elle prévoit de faire. Vers 19h30, des voisins l'aperçoivent quitter son appartement. Elle porte uniquement de la lingerie et des talons hauts, ce qui leur paraît vraiment bizarre. Plusieurs voisins remarquent ce comportement étrange, mais personne ne signale l'incident aux autorités. On est à Las Vegas où les comportements étranges sont monnaie courante. À 20h, Esmeralda est encore aperçue à quelques rues de chez elle, cette fois par des caméras de surveillance près d'un concessionnaire automobile. Ce concessionnaire, BMW, se trouve entre le boulevard Decatur et l'avenue Sahara. Ouais, j'ai une avenue à Vegas qui porte mon nom. Les images des caméras montrent qu'Esmeralda marche seule, toujours en lingerie et en talons, avec une démarche qui pourrait laisser croire qu'elle a peut-être un peu trop bu. Elle n'est clairement pas dans son état normal et il se pourrait que ce soit dû à une prise importante d'alcool ou une prise de substance. Quoi qu'il en soit, Esmeralda reste dans les environs pendant à peu près 20 minutes. On dirait qu'elle cherche quelque chose ou quelqu'un. Les employés du concessionnaire remarquent cette jeune femme en petite tenue, désorientée, qui demande à utiliser un téléphone et qui a besoin d'aide pour se rendre quelque part, mais sans expliquer clairement où elle veut aller. Les employés aimeraient bien l'aider, mais ils ne comprennent pas ce qu'elle dit ou ce qu'elle veut. Aucun d'eux n'appelle la police ou les services d'urgence, et ça c'est une négligence qu'ils n'oublieront pas. Même s'il est fréquent de voir ce genre de comportement dans une ville comme Vegas, on ne laisse pas une femme seule dans la rue le soir qui n'a pas l'air dans un état normal. Vers 21h, des résidents d'un quartier proche voient Esmeralda frapper à plusieurs portes pour demander de l'aide. Personne ne lui ouvre. Un peu plus tard, une caméra de sécurité la montre en train d'essayer d'ouvrir une porte avant de réaliser qu'elle se trompe de maison puis elle repart en courant. Encore une fois, personne ne l'aide. Les gens pensent peut-être qu'elle est sous l'influence de drogue et ils ont sûrement peur d'elle et c'est probablement la raison pour laquelle aucun résident du quartier ne va appeler ni la police ni les services d'urgence. Alors on peut avoir peur mais quand même venir en aide parce qu'il s'agit d'une femme. Esmeralda est dans une position très vulnérable, quand bien même elle aurait pris des substances. Passé 22h, plus aucune trace d'Esmeralda. Sa famille, inquiète de ne pas avoir de nouvelles, commence à essayer de la joindre sans succès. On l'appelle sur son téléphone portable, on lui envoie des SMS, on lui envoie des messages sur les réseaux sociaux. Le lendemain, son frère Juan lui rend visite, mais elle n'est pas chez elle. Et Juan dira plus tard « J'ai immédiatement paniqué parce que ce n'est pas son genre de prendre ses distances comme ça ». Le 1er juin, donc le lendemain, la famille d'Esmeralda signale sa disparition à la police de Las Vegas. Et connaissant ses antécédents de schizophrénie et de troubles bipolaires, ils sont extrêmement inquiets pour sa sécurité. Les autorités lancent immédiatement une enquête. Ils se basent sur les vidéos de surveillance et les témoignages pour essayer de retrouver la jeune femme. Habituellement, il faut attendre entre 24 et 48 heures avant de signaler la disparition d'un adulte, mais l'état mental d'Esmeralda justifie une réaction plus rapide de la part des autorités. Juan va créer une page Facebook « Find Esmeralda González », « Trouver Esmeralda González » pour mobiliser la communauté. Et dans une interview qu'il donne à Fox 5 Vegas, il décrit la situation comme un cauchemar absolu. Nous nous inquiétons pour elle tous les jours, nous pensons tout le temps à elle. Pour la retrouver, la famille González accorde des interviews aux médias locaux pour attirer l'attention des habitants de Vegas sur l'affaire. Ils espèrent récolter des preuves pour enfin retrouver Esmeralda. Ensemble, ils distribuent des tracts, des affiches dans les quartiers aux alentours. Des bénévoles et des inconnus touchés par l'histoire d'Esmeralda et sa famille vont aider les González. Malgré tous leurs efforts et leur bonne volonté pour la voir rentrer à la maison saine et sauve, la jeune femme reste introuvable. Peut-être qu'elle est partie de son plein gré, peut-être qu'elle a eu un malheureux accident. Dans son état, on pourrait imaginer qu'elle est tombée, qu'elle est peut-être inconsciente, blessée quelque part, ou encore qu'elle a fait une overdose. Les théories ne manquent pas. Après le signalement de sa disparition, les autorités de Vegas se lancent dans une enquête intensive. On diffuse des appels à témoins, on analyse image par image les vidéos de surveillance pour retracer son parcours. Malgré leurs efforts, aucune piste concrète ne se dessine et ça va durer plusieurs semaines. Mais le 18 juillet, on a enfin une piste. La police reçoit un appel anonyme. Cette personne semble savoir des choses et elle veut tout révéler. Elle affirme qu'un certain Christopher Prestipino et sa colocataire Cassandra Garrett sont impliqués dans la mort d'une femme. Qui est cet informateur? Comment a-t-il obtenu des éléments aussi précis? Aujourd'hui, on ignore toujours qui est cette personne à l'autre bout du fil. Ce qui compte à ce moment précis, c'est que les enquêteurs ont enfin des noms et donc des suspects potentiels, même si rien ne confirme qu'il s'agit bien d'Esmeralda. Et avant d'aller plus loin dans l'enquête, qui est Christopher Prestipino? Né en 1974, il a environ 44 ans au moment des faits. Il grandit à Las Vegas et une fois adulte, il se lance dans le domaine de la construction. Il est connu pour ses compétences manuelles et l'utilisation de matériaux de construction. Sa vie est relativement discrète et il n'est pas connu en dehors de son cercle proche. Avant cette affaire, il a déjà des antécédents liés à la drogue, notamment la consommation et la distribution de méthamphétamine. Cassandra Garrett, sa colocataire, alors on sait très peu de choses sur elle, si ce n'est qu'elle a 38 ans au moment où se passe notre affaire. On sait aussi qu'elle vit avec Christopher, mais ils ne sont pas en couple. Après l'appel qui incrimine Christopher et Cassandra, les enquêteurs doivent vérifier que c'est pas une blague, que c'est une vraie piste. Ils commencent à collecter des preuves et à surveiller les suspects. Ils obtiennent des images de vidéosurveillance qui montrent Christopher en train d'acheter des sacs de béton chez Home Depot, un magasin de bricolage, et le moment de cet achat correspond avec la période de la disparition d'Esmeralda. Mais est-ce qu'on peut vraiment trouver ça suspicieux quand on sait dans quel domaine Christopher travaille? Pas forcément. À la fin du mois de juillet, Christopher et Cassandra sont convoqués au commissariat pour être interrogés. Au départ, ils nient toute implication, mais sous la pression, leur déclaration commence à présenter des incohérences. Christopher prétend ne rien savoir, mais il devient évasif quand on le met face à certaines preuves. Alors certes, c'est pas des preuves directes, mais des preuves indirectes. Les achats chez Home Depot, le Roi Merlin version US, des données GPS qui le placent sur la scène de la disparition, et aussi les révélations de Cassandra. Cassandra, très nerveuse pendant son interrogatoire, finit par admettre qu'elle et Christopher étaient bien avec Esmeralda le soir de sa disparition. Ils ont drogué la jeune femme. Cassandra précise aussi qu'elle est simplement présente, elle va minimiser son rôle dans les événements qui vont suivre. Avec ces nouvelles déclarations, la police obtient des mandats de perquisition pour fouiller leur résidence. Ils y vivent tous les deux dans le quartier nord-ouest de Las Vegas, au 10253 de la rue Grizzly Pine, à environ 16 km de l'appartement d'Esmeralda. En voiture, la distance entre le domicile de la disparue et de nos deux colocs représente un trajet d'environ 20 minutes. Au mois d'août, alors que les policiers sont en pleine perquisition, ils trouvent des traces de lutte et des résidus de béton frais dans la maison. Ils découvrent des équipements de construction qui correspondent aux achats de Christopher, mais on ne trouve pas de corps ni de sang. L'enquête continue. Mi-août, un autre témoignage, anonyme encore, change la donne. Quelqu'un affirme avoir vu Christopher et Cassandra transporter un grand conteneur en bois vers un endroit isolé dans le désert. C'est peut-être le même informateur qui leur a déjà passé un coup de fil pour les mettre sur la piste de nos deux colocs. Les recherches du corps commencent au nord de Las Vegas. Les équipes utilisent des technologies de détection avancées pour localiser des anomalies sous la surface du sol. Et après plusieurs jours de recherche dans des conditions pénibles, le corps d'Esmeralda est enfin retrouvé. Il se trouve dans une structure en bois, comme l'avait indiqué l'appelant anonyme. Le cadavre est enfoui et caché dans une zone isolée du désert et il est recouvert de béton. Cette trouvaille permet aux enquêteurs d'officialiser les charges contre Christopher Prestipino et Cassandra Garrett. Ils sont officiellement recherchés pour être inculpés dans le meurtre d'Esmeralda Gonzalez. Justice pourra peut-être enfin être rendue à Esmeralda et surtout on espère répondre à la question qu'on se pose tous. Pourquoi Esmeralda a-t-elle été tuée? La cérémonie d'enterrement en hommage à Esmeralda se tient le 15 octobre 2019, une semaine après la découverte de son corps. Toute sa famille se réunit au cimetière de Palm Downtown à Las Vegas. C'est une cérémonie traditionnelle, pleine d'émotions et de tristesse. Une messe est célébrée en sa mémoire dans une église, puisqu'Esmeralda, tout comme ses parents, était très croyante. Pendant cette messe, ses proches, ses amis se rassemblent pour prier et se souvenir de la jeune femme qui avait l'habitude de fréquenter cette paroisse. Entre le moment où Christopher se fait interroger par la police et le moment où on retrouve le corps d'Esmeralda, Christopher est libre puisqu'il n'y a pas assez de preuves à son encontre et surtout, on n'a pas le corps. Et maintenant qu'il a été découvert, Christopher se fait arrêter le 11 octobre à l'aéroport international McCarran de Las Vegas dès son retour du Belize, un pays d'Amérique centrale. Monsieur avait pris la fuite. Pourquoi il est revenu, c'est une excellente question. Ce qu'on sait, c'est la raison du choix de ce pays en particulier. Le Belize se trouve juste à côté des États-Unis, ce qui est très pratique pour fuir quand on est recherché par les autorités par exemple. On peut même y aller en bateau. En plus de son statut de paradis fiscal, le Belize n'a pas d'accord d'extradition avec les États-Unis. De son côté, Cassandra est aussi arrêtée peu de temps après. La police arrête également la petite amie de Christopher, Lisa Moore, 31 ans, puisqu'elle a hébergé, caché et aidé un criminel. Et en effet, Lisa est accusée d'avoir aidé Christopher après le meurtre. Elle l'aurait aidé à se cacher des autorités, lui et aussi Cassandra. Une fois que Christopher découvre que les autorités l'ont dans le viseur, il s'enfuit donc au Belize, mais quand il revient le 11 octobre, il se fait attraper. Donc d'une, c'est ce que j'appelle de la petite copine super dévouée, parce que tu risques quand même très gros au niveau de la justice par amour. Et deux, je comprends pas pourquoi Christopher revient aux USA où il est recherché pour meurtre, alors qu'il était dans un pays où personne ne serait venu le chercher. Alors techniquement, l'extradition reste possible, même s'il n'y a pas d'accord entre les pays, mais d'une, elle est pas sûre, et si elle se fait, le procédé est très très long. Pourquoi il est rentré aux États-Unis. Du côté de Cassandra, tu verras qu'elle est nettement moins organisée et calculée que son coloc. Après le meurtre d'Esmeralda, elle en parle à ses amis. Et elle va même se vanter d'avoir elle-même tué la jeune femme. Ses proches appellent d'ailleurs la police en leur disant que Cassandra connaît la femme disparue, qu'ils sont en train de chercher partout. Et on arrive au 13 mars 2023, quand le procès débute au tribunal du comté de Clark à Las Vegas. Et on va faire des découvertes ahurissantes. Le juge Carly Kearney saisit l'affaire, le procureur Michael Giles représente l'accusation et Craig Mueller est avocat de la défense et celui qui représente Christopher. Le juge va fixer une caution à 500 000 $, caution que Christopher ne paiera pas, il devra donc rester en détention jusqu'à la fin du procès. Christopher Prestipino plaide coupable en utilisant le plaidoyer Alford. J'en ai déjà parlé du plaidoyer Alford, mais petit rappel, ce que ça veut dire, c'est que Christopher reconnaît qu'il y a suffisamment de preuves pour le condamner, mais il n'admet pas sa culpabilité, il maintient son innocence. Les avantages de cette plaidoirie, c'est qu'elle permet à l'accusé d'éviter un long procès plus risqué. Ce type de défense réduit la charge de travail des tribunaux et peut aboutir à des peines réduites pour l'accusé. Tout le monde y gagne. Pendant le procès, l'attitude de Christopher révèle une personnalité plutôt complexe. On découvre que c'est un manipulateur qui utilise la drogue pour contrôler la situation et pour dominer les autres. C'est lui qui justement va droguer Esmeralda avec de la méthamphétamine pour la maintenir sous emprise avant de commettre le meurtre. Il dissimule le crime d'une manière des plus horribles en recouvrant le corps de béton. De son côté, Cassandra plaide coupable face aux accusations de meurtre au second degré, donc homicide sans préméditation. La famille d'Esmeralda est présente tout au long du procès. Son frère Juan prend la parole pour exprimer la douleur et le chagrin de toute la famille. Il défend l'honneur de sa sœur tuée dans des circonstances vraiment étranges. Le rapport d'autopsie révèle qu'au moment de la découverte du cadavre, les mains d'Esmeralda sont liées. Il y a du ruban adhésif autour de sa tête et de son cou. Depuis combien de temps est-ce que ces rubans la maintiennent attachée? Est-ce qu'on l'a ligotée après sa mort ou avant? On se demande aussi si elle a été torturée. Son corps est retrouvé dans un réservoir de 950 litres rempli de béton et couvert de bois. Et son état ne permet malheureusement pas de répondre à toutes les questions qu'on se pose. Et si on reconstitue les événements de la soirée, voici ce qu'il se passe. Déjà, il faut savoir qu'au cours de l'enquête, la famille d'Esmeralda révèle à la police qu'elle se drogue régulièrement. Donc l'état dans lequel Esmeralda se trouve le soir du drame, c'est à cause d'une prise de substance. Elle déambule dans les rues, elle titube. Christopher et Cassandra ne la connaissent absolument pas. Ils passent par là tout simplement, ils croisent son chemin. Donc ils la trouvent dans cet état et non seulement ils font partie des dizaines de témoins qui ne vont pas venir en aide à la jeune femme, mais ils vont surtout profiter de la situation. Ils proposent à la jeune femme déboussolée, à moitié nue, de la ramener chez eux en lui promettant de lui offrir de la drogue. Christopher tient sa promesse, il donne à Esmeralda de la méthamphétamine, et d'après les confidences de Cassandra, Esmeralda serait morte dans un jeu fétichiste sexuel qui aurait mal tourné. C'est pendant ces jeux sexuels type BDSM qu'Esmeralda menace d'appeler la police, ce qui conduit Christopher et sa colocataire à la ligoter pour la calmer et pour la faire taire. Il lui injecte ensuite un produit, une substance hautement toxique et corrosive qui, en contact avec la peau, va causer des douleurs intenses, des brûlures chimiques graves et potentiellement la mort. On peut supposer qu'Esmeralda est morte dans une douleur inimaginable. La cause exacte de la mort est difficile à déterminer en raison de l'état avancé de décomposition de son corps, mais les enquêteurs concluent qu'elle a été étranglée et qu'on lui a injecté le produit qui l'a tuée, un nettoyant pour piscine. S'ils ont tué Esmeralda tous les deux, il est fort probable que Christopher et Cassandra aient paniqué à l'idée qu'elles puissent les dénoncer à la police. Ça aurait pu avoir des conséquences lourdes, surtout pour Christopher, qui est déjà impliqué dans des affaires de drogue, sans parler de son casier judiciaire qui n'est plus vierge depuis longtemps. Selon James Chelnut, détective dans des affaires de SWAT, reconverti en avocat, l'hypothèse du jeu sexuel qui a mal tourné est la plus probable. C'est la raison pour laquelle Esmeralda aurait menacé d'appeler la police, c'est ce qui a motivé les deux colocs de l'enfer à la ligoter. Selon James Chelnut, la jeune femme est peut-être venue d'elle-même, de son plein gré, dans la maison de Christopher et Cassandra, avant qu'elle ne finisse séquestrée, droguée de force. L'implication de drogue a certainement altéré son jugement et ça n'a fait qu'empirer la situation. C'est pour cette raison que la préméditation sera difficile à prouver au procès. Il s'agit d'une situation extrême qui reste encore un peu floue, sans parler des troubles mentaux d'Esmeralda et du fait qu'elle ne prenait plus son traitement. Cette théorie sur le déroulé des événements ne plaît pas à tout le monde, surtout parce qu'elle manque de respect à la victime. On la dépeint comme une droguée et peut-être une prostituée qui ce soir-là aurait vendu ses services pour de la drogue. Et c'est cette version qui est défendue par Cassandra tout au long du procès, à savoir qu'Esmeralda les aurait suivis, elle et Christopher, avec la promesse de se voir offrir de la drogue. Et tu te demandes sûrement ce qu'elle foutait là, Cassandra, dans un jeu BDSM entre Esmeralda et son coloc, qui n'est soi-disant que son coloc, rien de plus, et sachant que Christopher, il a une meuf qui s'appelle Lisa. On se demande aussi si toute cette affaire, ce serait pas un règlement de compte. Et si Esmeralda et Christopher étaient d'anciens amis devenus ennemis, est-ce que Christopher était le dealer d'Esmeralda? Est-ce qu'il était un client d'Esmeralda? La procureure Pamela Vekerly ne croit pas qu'il y ait eu une relation antérieure entre Esmeralda et Christopher avant son arrivée chez le duo assassin le soir du drame. L'enquête, en tout cas, ne révèle rien à ce propos, donc on ne peut qu'émettre des théories. D'après la procureure, Christopher voit une femme tituber devant sa propriété et il en profite en bon pervers qu'il est. Face à de telles accusations aussi horribles, Christopher affirme que son implication dans la mort d'Esmeralda est exagérée. Le vrai cerveau derrière cette opération, c'est Cassandra. Quand on a deux accusés, c'est la défense classique du « c'est bon, c'est l'autre ». Du côté de Cassandra, elle aussi, elle rejette la faute sur son co-accusé. Elle tente de minimiser son rôle en affirmant qu'au moment du meurtre, elle aussi était droguée et terrifiée par le comportement de son colocataire. Pendant tout ce procès, les deux accusés risquent une énorme peine de prison. Parmi les preuves matérielles, on a évidemment ce que j'ai cité plus haut, les données GPS, les achats de matériel chez Leroy Merlin, les témoignages des voisins, mais aussi la location d'un camion qui aurait servi à transporter le corps d'Esmeralda afin de s'en débarrasser dans le désert. D'autres témoins affirment avoir vu Esmeralda en compagnie de Christopher et Cassandra quelques instants avant sa disparition. L'avocat de Christopher, Craig Muller, minimise la responsabilité de son client. Pour lui, tout ça n'est qu'un regrettable accident. Alors, va falloir m'expliquer comment tu peux remplir une seringue de nettoyant pour piscine, l'injecter dans la peau d'une femme par accident, louer un camion, aller dans le désert, enterrer le corps sous presque une tonne de béton, et c'est juste un accident. Christopher, avec tous ses achats, il construit un moule pour créer une structure. Il assemble une boîte suffisamment grande pour contenir le corps de sa victime. Ensuite, il dépose le corps d'Esmeralda dans le moule. Le corps est enveloppé dans du plastique et des couvertures pour réduire les fuites de fluides corporels comme le sang ou l'urine et donc minimiser l'odeur de putréfaction. Et pour finir, il va couler le béton dans le moule qui va recouvrir complètement le corps. Les deux colocs attendent que le bloc durcisse. Pour le béton, il faut compter entre 24 et 48 heures généralement. Même le lieu de l'enterrement est bien choisi, entre guillemets. On est dans une zone éloignée dans laquelle il sera difficile d'effectuer des recherches. Et tout ça, c'est un accident. Deux jours sont nécessaires au jury pour rendre leur verdict qui tombe le 27 avril 2023. Christopher est condamné à 10 à 25 ans de prison pour meurtre au deuxième degré et enlèvement au premier degré. Cette sentence paraît vraiment légère, mais c'est le plaidoyer Alford qui joue en sa faveur. Surtout quand on sait que la peine de mort est toujours en vigueur dans le Nevada, on comprend mieux l'accord de plaidoyer Alford. La préméditation n'est pas retenue, la cour estime que Christopher et Cassandra sont tout simplement des opportunistes. Ils ont tous les deux tué Esmeralda sous le feu de l'action. Après, c'est quand même à se demander si Christopher et Cassandra n'ont pas déjà fait des choses similaires par le passé. Est-ce que c'est la première fois qu'ils kidnappent, qu'ils leurrent une femme vulnérable chez eux? Est-ce que c'est la première fois qu'une soirée BDSM tourne mal? On dirait quand même que c'est une technique bien rodée pour piéger des jeunes filles fragiles et les transformer en pantins sexuels. C'est rassurant de se dire qu'ils sont tous les deux derrière les barreaux, même si c'est provisoire. Christopher est incarcéré à la prison d'État High Desert. Cassandra purge sa peine au centre correctionnel pour femmes de Florence McClure, au nord de la Las Vegas. Le 17 août 2023, Cassandra fait l'objet d'une audience de libération conditionnelle, on s'en paraît un peu tôt, mais bon. Aucun détail n'est disponible quant au verdict de cette demande. Christopher pourra, lui, demander sa libération conditionnelle en 2034, soit dans 10 ans, et Cassandra devra attendre 2031, si la première ne porte pas ses fruits. Après le verdict, Juan, le frère d'Esmeralda, s'exprime devant la presse. Il a l'espoir que cette condamnation aidera peut-être la famille à guérir. Ça me fait mal de savoir qu'elle n'aura jamais l'opportunité d'aller à l'école de droit et de protéger les droits des autres. Esmeralda voulait en effet devenir avocate. Cette affaire fait beaucoup penser à celle de Jessica Chambers en 2014 à Courtland, dans le Mississippi. Jessica, une femme de 19 ans, est retrouvée brûlée vive près de sa voiture en feu. Elle a été aspergée d'un liquide inflammable et plus de 98% de son corps sera touché. Elle succombe à ses blessures. Comme Esmeralda, Jessica subit une mort violente et douloureuse. Et comme pour Esmeralda, l'enquête va révéler des liens avec des activités criminelles, de la consommation de drogue. On a aussi l'affaire Peter Tobin, en 2006 à Margate, dans le Kent, en Angleterre. Peter Tobin, un tueur en série écossais, est reconnu coupable du meurtre de plusieurs femmes. Le corps de Vicky Hamilton, l'une de ses victimes, est découvert enterré dans le jardin de sa maison, enfermé dans une structure en béton, un peu comme ce qu'ont fait Christopher et Cassandra avec le corps d'Esmeralda. Malheureusement, cette histoire n'est pas un cas isolé. Si jamais tu croises une femme dévêtue dans la rue en pleine nuit et visiblement sous l'influence de substances comme drogue ou alcool, si tu ne te sens pas d'y aller et de l'aider, au moins appelle les secours. Dans mon quartier, un jour, il y avait une femme qui était complètement bourrée, elle était à vélo en plus, puis elle est tombée. Il y a un mec qui a essayé de l'approcher. On a tous compris, on a tous vu qu'il n'avait pas de bonnes intentions. Là, il y a deux hommes et une femme qui se sont approchés d'elle. Moi, je suis de l'autre côté de la rue, je suis un peu loin, donc j'attends de voir ce qui se passe, voir si je dois intervenir moi aussi. Au final, les trois personnes lui ont demandé où elle habitait. La dame a répondu qu'elle habitait juste là, au bout de la rue. Ils ont pris le temps de la raccompagner chez elle et surtout de l'éloigner de ce mec chelou qui faisait semblant de vouloir l'aider. Une fois aussi, j'ai vu un mec qui était complètement bourré. Au début, j'ai cru qu'il était mort, donc je suis d'abord allée vérifier son pouls. Zarma, la meuf qui connaît les techniques. J'ai appelé les secours, ils sont venus, ils ont cherché à comprendre ce qui se passait. Et au final, des policiers l'ont raccompagné chez lui. Pareil, il habitait un peu plus haut, sur la même rue. Ça prend pas longtemps de raccompagner une femme seule chez elle la nuit, surtout si on s'y met à plusieurs, et ça prend encore moins de temps de passer un coup de fil. Si, comme moi, t'es dans la même situation, une femme seule la nuit, tu vas pas raccompagner un mec bourré chez lui. Les secours sont aussi là pour ça. Si Esmeralda avait eu la chance de croiser une personne avec une conscience, elle serait encore en vie aujourd'hui. Alors des anecdotes comme ça, j'en ai mille autres que je pourrais te raconter, mais je vais m'arrêter là. Je te laisse le soin de mettre un commentaire pour partager les tiennes si tu en as. Et bah, je te laisse ici, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.